bienvenue pour cet énième podcast de Perdusa.
Le dernier de l'année.
Le dernier de l'année. On est trois pour ce podcast et c'est parti, on va parler de séries télé et de choses de télé-réalité. C'est parti.
On commence par quoi ?
Survivor.
Moi, donc, je suis pas content.
Ah bon ?
Pourquoi ?
Non, je suis pas content.
Mais c'est bien Survivor, moi je suis content, Todd est toujours là, Amanda est toujours
là. Denise est toujours là.
Et ce boulet d'Eric est parti, donc tout va bien.
Non, c'était pas bien, c'était le moment où jamais où Denise pouvait changer le cours du jeu, remettre un peu de piment dans le jeu, et c'était le moment idéal.
Mais Denise, elle fait un peu pitié, enfin, parce qu'elle a jamais... Dans ses interviews, elle est pas mal, c'est vrai qu'elle dit « Ouh, attention, il faut que je prenne une décision, ouh, attention, il faut toujours penser au jeu », et elle joue jamais, elle va toujours dans le sens de la majorité, elle a jamais pris une initiative par elle-même. Moi, je pensais un peu à la sourde dans Survivor... Amazon, où elle se rend compte qu'elle peut faire des choses, elle se rend compte qu'elle est un enjeu stratégique de tout le monde, et puis finalement elle fait rien du tout, elle vote safe à peu près tout le temps.
Et c'est pénible.
Bouh, Denise meurt.
Et c'est super pénible.
En même
pénible.
Temps, elle a pas. De toute façon, qu'elle ait renversé le jeu ou non, elle est à peu près foutue. Ils vont forcément se débarrasser d'elle à un moment, puisqu'elle a raison quand elle dit que. Si elle arrive en finale avec les autres, le jury risque de voter pour elle. Parce qu'elle est sympathique, parce qu'elle ne sait pas vraiment créer d'ennemis.
Ouais, mais ça fait deux saisons que la finale, c'est un Final 3, non pas un Final 2. Là, maintenant, cette saison, ils doivent être au courant.
Bah oui, ils l'ont dit en plus. Hein,
que là, c'était vraiment un Final 3. Ouais. Là, c'était au public de décider à partir du dans deux semaines.
Avec
le jury, pardon. Au jury de décider dans quelques semaines.
Tu confonds avec Beauty and the Geek.
C'est vrai, ça m'a perturbé que cette fois-ci le public vote dans Beauty and the Geek.
Ah ouais ?
Ouais.
Moi, j'ai pas vu la fin.
C'était bien ?
C'était bien.
Moi, j'aime bien les.
Ça t'a un peu tiré en longueur, mais c'était. Ouais. C'était bien.
Mais qui a gagné ?
C'est Jasmine et. Pas Jasmine.
Oh non !
Et Gradouble.
Celui qui avait l'air d'un psychopathe au début.
Mais qui était bien sur la fin ?
Oui.
Ah ouais, ça arrête. J'ai arrêté, ça m'a saoulé les geeks cette saison.
Ah, c'est pénible les geeks cette saison. Mais celui-ci était bien.
Oui.
Je disais un truc super intéressant sur Survivor. Non, je m'en rappelle absolument pas.
Le public qui va voter.
Le public qui ne doit pas voter pour le Final 3. Là, si elle reste avec Todd, Amanda et Courtney, elle se fait éliminer avant la finale.
Bah, sauf si elle gagne l'épreuve d'immunité.
Sauf
qu'elle
n'a pas gagné.
Ça pourrait être un truc de mémoire.
Quoi qu'elle a gagné là avec son mari, là, l'épreuve de
confort. Ouais, mais c'est un truc spécial gros, c'est normal qu'elle gagne. Remarque, elle a super maigri par rapport au générique.
Bah, c'est vrai que 40 jours sans manger, franchement, tu perds du poids.
Il suffit de voir Courtney, hein, déjà qu'elle est arrivée maigrichonne, mais alors là.
C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le début et la fin de Courtney.
Ah, moi je trouve que si. C'est là, il n'y a vraiment plus que les os. Et d'ailleurs, je trouve qu'au niveau de la production, ils devraient filer des intraveineuses. ou même ne pas les laisser arriver en dessous d'un certain poids. Au cas où le candidat reste jusqu'à la fin et perd trop de poids, parce que c'est...
Je pense qu'ils sont suivis médicalement.
Ouais, ils doivent leur filer des cachets.
Je pense pas qu'il y aura un transfert de graisse entre Jean-Robert et elle.
Oh, Jean-Robert.
Ça lui ferait du bien, écoutez.
Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'était très très bête de la part de Denise de ne pas changer de.
Là, en même temps, ça pouvait se concevoir qu'elle vote pas avec les autres, puisque ce à quoi il serait abouti. Oula, c'est super français, mais je crois que je suis habitué à faire n'importe quoi. Il y aurait eu une égalité.
Oui, et c'est là que Todd gagnait, elle était bien dans la merde.
Ah oui, si Todd gagnait, bah, elle était éliminée en quatrième. Super, et si elle gagnait, et si Todd gagnait pas, elle était éliminée en quatrième. Ben non, dans les deux cas, elle était.
Non.
Elle avait le choix.
Si elle forçait en fait le.
Le taille.
Le taille, oui, voilà, je cherchais pas de mots.
Ne parlons plus français, c'est.
Et donc on avait Eric contre Todd à une épreuve du feu où j'en sais trop rien et que Todd gagnait. Ils retournaient tous au camp et Denise, elle était un peu. Elle se retrouvait exclue, quoi, puisque Todd aurait su forcément que Denise avait voté contre lui. Elle aurait été bien dans la merde.
Après, Survivor étant Survivor, Todd passait pour une espèce de malade mental en disant « Tu as osé voter contre moi », tout le monde se rebellait contre Todd, il était
et éliminé. Amanda dit « Ouais, non, je pense que Todd, on devrait peut-être s'en débarrasser maintenant, c'est le moment ou jamais. » Mais là, re-alliance, quoi.
Vous n'avez pas vu Next Time on Survivor ?
Si, on a vu Next Time on Survivor.
D'ailleurs, j'avais envie de dire Amanda aurait dû le faire avant.
C'était là, c'était le moment ou jamais.
De virer Todd ?
Ouais.
Parce qu'elle aurait eu Eric et PJ de son côté. Mmh. Donc ça aurait fait beaucoup plus de
problèmes. Ouais, sauf qu'après, en faisant ça, Eric, PJ et Denise pouvaient s'allier. Elles se retrouvent toutes seules avec...
Ouais, mais si tu regardes dans le jury...
Dans le jury, il y en a un que j'adore, c'est... Il s'appelle pas Mookie, mais il est asiatique comme lui. Et il a l'air il a l'air de s'éclater à chaque Tribal Council. Comme un spectateur, il est tout content...
Et voilà, moi, je avec la blonde.
Avec la blonde, ils vont au spectacle tous les trois jours.
Chaque fois qu'il se passe quelque chose.
Moi, je les trouve très bien, voilà. On dirait un peu Mohamed à Wicked. Ça.
Moi, il me fait penser au cri de Munch. C'est les 2 minutes.
Au quoi?
Le cri de Munch, tu sais, de la peinture.
Non, alors attends, les fans de série n'ont aucune culture artistique, donc c'est pas la peine. Non.
Vous savez le masque de Scream?
Oui, voilà, c'est mieux. Tu t'adaptes à ton public, c'est bien.
Donc ouais, Survivor un peu déchu.
Mais Project Runway.
Project Runway,
pour ça ces
va.
4 premiers épisodes de cette 4e saison, avec c'est... pour la 4e fois Heidi Klum en host. Il y a sûrement un mot
français. Abandonne le français, c'est fini. C'est bien. Pas aussi bien que l'année dernière, je trouve, mais c'est bien.
Moi, je suis mitigée. C'est ma première saison, donc je peux pas vraiment comparer. Donc, je n'avais que des bons échos et puis les pubs qui disaient on a des designers absolument extraordinaires. Et finalement, bah, je suis un petit peu déçue. Enfin, c'est pas... On n'a pas forcément des candidats extraordinaires qui font. Vrai que... C'est vraiment moitié-moitié. Hein. Il y en a beaucoup qui font des trucs assez pitoyables.
Là, je trouve comme ça, comme chaque saison. Enfin, moi, je suis pas, je juge pas vraiment, vraiment les robes à la fin.
Mais un peu comme chaque saison.
Mais si, tu commences à dire, oh, quand même, elle est bien taillée, cette robe un peu plus cintrée, ça aurait été mieux, tout ça. Enfin, voilà, tu commences à te découvrir devant Project Runway, c'est bien.
C'est beau.
Mais non, ouais, cette année, j'ai vraiment l'impression que les mauvais font des trucs nuls tout le temps. Enfin, Ricky, c'est quand il veut qu'il s'en va. Enfin, non, c'est pas quand il veut, c'est quand les juges veulent, mais.
Je pense que Project Runway a le même problème que The Amazing Race. C'est des émissions qui reposent à 100% sur leur casting. Dans Survivor, ils s'arrangent pour qu'il y ait des twists assez différents, et même par rapport à sa structure, entre la première saison de Survivor et la dernière, le jeu a énormément évolué. Dans The Amazing Race, il y a eu des changements entre la saison 1 et la saison 2, mais entre la saison 2 et la saison 10 actuelle, il n'y a pas énormément de changements. Donc si le casting n'est pas super bon, tout de suite l'émission perd de son intérêt. C'est tout le temps la même chose. Project Runway, c'est un peu la même chose. Project Runway, ça joue énormément sur le casting. Soit t'adhères, soit t'adhères pas. Mais il n'y a pas 36 façons de dire Auf Wiedersehen ou...
You're out.
Ouais, mais c'est pas, bah, l'élément principal de Project Runway, c'est quand même la qualité des travaux fournis par les...
Ouais, ça dépend du casting. Est-ce que le casting est assez créatif?
Ouais, il y a quand même les épreuves. Moi, j'étais plutôt satisfait de ces épreuves. Enfin, non, en fait, il y en a que deux, j'ai bien aimé. Et puis, les épreuves en groupe me stressent en général. Mais c'était plutôt sympa d'avoir Sarah Jessica Parker. Enfin, ça faisait longtemps que je n'avais pas crié devant ma télé. Et j'ai fait un peu comme les gens de Project Runway. Parce que, en général, quand Heidi Klum annonce qu'on va devoir faire un. Enfin, pas on, c'est-à-dire les candidats vont devoir faire une robe pour une fashion icon. À chaque fois, c'est un chien ou c'est la poupée Barbie, donc on est genre un peu déçus. Et là, ils étaient tous là, ouais, genre, ça va être Madonna. Et puis là, en spectateur éclairé, on a pitié des candidats en disant non, mais attendez.
Non, c'est Marie-Alice Young de Desperate Housewives, la voix off.
Ça va être un truc comme ça. Et la pauvre Sarah Jessica Parker.
Ouais, mais alors, là encore, c'était super cheap. Alors voilà, il y a Sarah Jessica Parker, mais vous n'allez pas faire une robe pour elle.
Ah ouais.
Ce sera pour l'américaine de base obèse. Ah, et au fait, vous avez que 15$.
Mais j'ai l'impression d'ailleurs qu'ils forcent chaque semaine faire attention, vous allez avoir quelqu'un d'extraordinaire. Il y avait un mec, un joueur de foot.
ouais, c'est.
Il y avait.
Mais c'est comme chaque saison.
Oui, mais c'est à chaque épisode comme ça que c'est.
Oh, un épisode sur deux, t'as
quelqu'un d'extraordinaire.
Ouais. Et encore là, c'est la saison 4, donc.
Donc il y a vraiment
le mec du Today Show, c'est vraiment un type exceptionnel. Elle fait au début la première saison et c'est que des gens, tu sais même pas qu'ils existent. Et tu sens les candidats qui se forcent à faire. Waouh, on bien. Va faire une robe pour. Attends, j'ai oublié.
C'est quoi son nom?
Voilà, c'est ça.
Bah, c'était un peu le cas pour le gars du joueur de foot. Oh. Il y a.
Mais ça, ils étaient mortels. Ça, c'était super les réactions. Genre, il y a 90% de gays parmi les candidats, ils sont là. On va faire une fringue pour un joueur de foot. Moi, je sais pas qui c'est. C'était assez marrant.
Ouais, c'était rigolo.
J'aimais beaucoup en plus les conseils du mec. Alors, regardez, j'ai des fesses énormes, j'ai pas de cou. Donc, essayez de me faire une chemise.
Mais j'ai beaucoup moins aimé cet épisode.
Avec les... Oh non.
Ben...
Moi, j'ai dit, il y avait plein de mannequins hommes.
Bah ouais, c'est tout le temps ça la change. Même chose. Enfin, tous les costumes se ressemblaient.
Oui, ça c'est sûr.
Là, pour juger particulièrement, c'est super chiant.
Ouais, mais moi, ça m'a confronté au fait que... être un couturier hétéro, ça doit pas être facile, en fait. Un candidat hétéro à Project Runway, ça doit pas être facile, parce qu'effectivement, quand il y a tous les mannequins qui sont moitié en bikini, en... Bah, globalement, ça me dérange pas, tout ça, je suis toujours concentré sur les robes, mais alors là, pendant l'épreuve avec les mannequins hommes, j'avais complètement oublié que ces projets comme ça, ah, c'est bien. Et effectivement, on les sentait tous complètement perturbés, moi,
je trouvais ça pas mal. J'avais oublié de faire une chemise, et quand elle a mis l'écharpe, là, à la place, c'était assez pitoyable.
Mais Project Runway, ça reste quand même vachement bien. Donc heureusement, on va avoir une saison de Survivor... en 2008, on va avoir la fin de Project Runway à regarder, puis question série, on n'aura plus rien puisque tout le monde est en grève. Alors quand même, parlons des séries qu'on a pu regarder et qui éventuellement vont nous manquer quand il n'y aura plus d'épisodes.
Desperate Housewives pour moi. Je suis content aussi. De savoir que Joe Keenan n'est pas parti finalement.
Ben oui, il a écrit un épisode. C'était lequel? Celui avec la tornade? Celui d'avant.
Je crois que c'était celui d'avant.
C'était nul, celui d'avant.
Je sais pas, mais enfin, pour un truc aussi cheap qu'une tornade, ben, j'ai bien aimé l'épisode. Je pense que je suis une traînée pour Felicity Huffman, mais à chaque fois qu'elle fait un truc, même si tu as juste crié, et rien que la fin a été trop bien.
Ah non, mais j'ai juste envie de la buter, Felicity Huffman. Alors que moi aussi, je l'aime beaucoup. Son personnage, c'est juste, mais on a juste envie qu'elle crève dans cet épisode, et son mari aussi. Genre, oui, excuse-moi, alors on s'invite chez toi, on s'invite dans ta cave. Mais par contre, il faudrait que tu dégages tous les gens que t'as invités parce que mon mari est allergique au chat. Ouais. S'il est allergique au chat, il dégage.
Bah, c'est une tornade.
Bah, c'est une tornade, bah oui, bah tant pis.
tant pis. C'était. Non, j'ai bien aimé sa réaction. Totalement égoïste, totalement. Mais c'était ça le but de l'épisode, c'est qu'elle est confrontée à son égoïsme.
Non, rien du tout. C'est une
bonne chose.
Rien du tout, un petit chat là tout mignon, là perdu dans la tornade, non, moi ça m'a pas plu du tout.
C'était le but de l'épisode, c'était de prouver qu'elle était super égoïste comme personnage.
Ouais.
C'est pas Felicity Huffman, c'est Lynette.
Je suis sûr que Felicity Huffman elle est comme ça aussi. Elle pourrait pas jouer aussi bien l'égoïsme comme ça, c'est pas possible.
Elle pourrait pas être actrice.
Non, c'est pas possible. Mais c'est vrai que cette quatrième saison, j'étais un peu déçu que dans l'épisode sur la tornade, on n'ait pas nos amis. Flamboyants avec leur super statue. J'espère que la statue, elle n'aura pas été détruite par la tornade et que Suzanne sera dégoûtée de la vie. Bon, là, on a un peu l'impression que je pense que le personnage existe, mais.
Non, c'était un peu comme une petite sœur de 14 ans. Elle sera super deg, Suzanne. C'est bien.
Mais je trouve qu'on les voit pas assez, les voisins gays, alors qu'ils avaient. Ils ont quand même rendu Suzanne intéressante. Enfin, insupportable.
Ouais, et ils sont bien quand ils servent dans une intrigue. Ils n'ont pas à être là chaque semaine. Ils n'ont pas d'intrigue à eux et c'est très bien comme ça.
C'est 3-4 épisodes qu'on ne les a pas vus. Moi, je suis inquiet.
Très bien.
Je suis inquiet pour eux.
Si, parce qu'ils sont encore liés au mystère principal, parce qu'ils connaissent le secret de Chicago, de.
Ben nous aussi, ça y est, on le connaît.
Et ben, eux le connaissaient un peu plus. Visiblement, ils avaient un lien avec. Comment elle s'appelle ? Catherine.
Kate.
Ils avaient un lien avec Catherine, donc on va sûrement les revoir.
Ouais, je ne suis pas sûr, hein.
Ils n'ont pas besoin d'avoir une intrigue, tous les personnages secondaires. C'est comme Mrs. Makotsky. On n'avait pas besoin qu'elle ait une intrigue avec son mari mort dans son congélateur. Oh. À quoi ça servait?
C'était en saison 4, ça?
C'était en saison 3, je crois.
Ouais, non. Oh là, ça, j'étais nul.
Elle est très bien quand elle est la voisine un peu pénible de Felicity Huffman. C'est tout, c'est très bien. Les gays, c'est comme Ida. Il faut les voir trois
c'est
fois.
C'est quoi, les gays, c'est sympa en second rôle, quoi, mais il faut laisser au premier plan...
Exactement, voilà. Les vraies personnes. Les déviants doivent être relayés au second rôle. C'est comme les noirs, on les a vus une saison, c'est très bien, ils sont partis maintenant. Les gays, c'est la même chose.
Bon, attends, j'espère que les gays, ils ont le droit de... Non, on va pas se lancer dans des comparaisons abominables. Parce qu'après, Delphine va devoir s'excuser, et puis envoyer certains en thérapie, tout ça. Et puis il n'y aura plus personne sur le site pour ne pas écrire des reviews de séries qui ne seront pas diffusées.
Oh, j'irai en réa pendant une semaine, voilà. Ensuite je reviendrai guéri.
Et Catherine, ouais, Catherine est vachement bien comme nouvelle voisine.
Ouais, Catherine est vachement bien comme nouvelle voisine. Maintenant, j'aimerais bien qu'il libère Nathan Fillion pour qu'il aille faire une vraie série.
Parce qu'il était bien en Frankenstein dans l'épisode. Je trouvais que ça lui allait bien comme déguisement.
Mais ils n'ont pas besoin d'avoir de vrais acteurs pour les maris, je trouve, dans Desperate Housewives. À part Tom.
Si, si, il leur faut un vrai acteur. C'est le mari de Suzanne, là. Il sait vraiment pas jouer, mais c'est hallucinant.
Mais c'est très bien quand il sait pas jouer, parce qu'ils ont pas... Enfin, c'est comme les gays, ils ont pas avoir d'intrigue dans Desperate Housewives.
Ouais, mais là, son coup, genre, son intrigue super originale, c'est « Je suis accro aux médicaments », un truc qu'on n'a jamais vu dans les séries, bah, il n'arrive pas à le jouer, vraiment.
Non, non, il n'arrive pas. Mais c'est pas grave, parce qu'il ira en réhab, et au bout d'une semaine, il sera guéri, et ensuite, on en reparlera plus, c'est comme l'alcoolisme de Brie.
Oui. Mais si comme ça, elle a pu en reparler un petit peu, 10
minutes.
C'est un peu de continuité avec les saisons précédentes, c'était pas mal.
Non, il y a un sérieux problème avec... C'est très bien qu'il savait même plus quoi faire de Kyle MacLachlan dans Desperate Housewives. Il est super bien en troisième rôle quand il fait Mariole sur son scooter, quand il joue le.
Ouais.
Bah, les seconds.
Couteau.
Le second couteau par rapport à sa femme et. Il est très bien comme ça. On n'avait pas besoin d'avoir une intrigue tout autour de lui avec Monique.
I miss you, Monique. Non. Tout me manque, Monique.
Tout me manque.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Blackie. Parle-nous d'une série que tu regardes.
Je parlerai bien de House.
Ah ouais.
Pour mélanger réalité et série.
Et pourquoi tu t'es remise à regarder House?
Parce que toi, t'es un peu.
Je suis très influençable.
Ouais, mais t'es quand même quelqu'un d'assez conservatrice, un cubéni et tout.
C'est vrai.
Comment tu peux cautionner un tel. Enfin,
je cautionne pas, je regarde juste pour voir House être puni et finir en prison après.
Bien.
Forcément. Non, mais c'est vrai que, par contre, j'aimerais bien que, limite, que la série, justement, soit finie, qu'il n'y ait plus d'épisodes à cause de la grève. Parce que je trouve qu'elle était très bien, et maintenant que le jeu télé-réalité privé de House est fini, j'ai peur de revenir à un schéma qui m'ennuyait, justement, l'an dernier, qui fait que j'ai pas suivi l'an dernier.
Moi, je suis assez curieux de voir les interactions entre les trois nouveaux docteurs et les deux anciens.
Oh non, on les a un petit peu vus déjà.
On va pas. Chase et la blonde.
C'est les mêmes.
Alors. On va continuer à les voir.
Ouais. Bah, ils sont encore crédités au générique.
C'est,
donc pas, y a pas,
c'est
vraiment...
pas les trois meilleurs. C'est surtout ça aussi qui m'embête. C'est que j'aurais pas pris ces trois-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit sur le forum d'ailleurs. C'est que c'est un peu les sosies des trois anciens. Il y a peut-être. Deux caractéristiques différentes.
Sur le forum, j'ai lu qu'il fallait pas prendre. Il fallait pas prendre le vieux parce qu'il était moche.
Ouais, ah,
d'accord, ouais, non. Pas exagéré non plus, mais j'aurais bien gardé la bitch là.
Catherine Bitch.
Ouais, Amber. Elle était un peu plus intéressante.
Est-ce que c'était pas redondant avec ça... House un peu? Enfin, c'est un peu les deux mêmes personnages. On en a rien à foutre des patients.
Oh non, elle en a pas rien à cirer non plus.
Non,
mais
c'est catégorique.
Elle...
C'est.
Ah,
non,
tu as nul. C'est oui, voilà, tu adores. Okay, non, bon. Elle était un peu lèche-botte. Elle voulait absolument. Ça changeait un peu.
J'ai trouvé sa confrontation avec House un peu forcée pour donner un peu de dimension au personnage. Ouais.
Oui, sur la fin, ça faisait forcer. C'était genre, on a besoin de l'avoir dégagée, de voir qu'elle a une faiblesse.
Voilà, de justifier son renvoi à la fin de l'épisode.
Ouais.
Je trouvais ça un peu faiblard. Mais sinon, ouais, c'était... Moi, je suis assez content du choix de House sur les...
J'aurais bien gardé Big Love. Je trouvais qu'il était pas mal.
Parce que c'est un cubéni. Enfin, parce que tu...
C'est
l'un des tiens, quoi. C'est...
Moi, je comprends pas pourquoi tu dis ça, Black.
Bah, t'as pas vu ses revues de Dexter et c'est tout ce qui est pas sur
non,
le forum.
Non,
sur
non,
Dexter.
Non, non.
Sponsorisé par
Il y a une mini controverse sur le topic Dexter sur le forum.
Bah, les gens ont enfin réalisé que.
Que je ne me relis pas déjà.
Que tu ne me relis pas, que t'es. Une frustrée sexuelle qui ne connaît rien au comic book,
non,
c'est ça
Ah, connaît rien au comic book, la frustrée sexuelle, c'est surtout faire dissiper.
Ah, mais ça, c'était pas une surprise. Bah, elle est anglaise.
Bah oui, c'est vrai.
Elle est mi-anglaise.
C'est bizarre qu'elle comprenne mal. Et c'est sur Six Feet Under aussi, elle comprenait pas bien les dialogues, tout ça, que c'est des revues pourries. Je vous rappelle.
Ouais,
pas,
alors, oui. Ouais. Enfin, mais à part ça, House.
À part le mormon que je voulais garder.
Tu comptes regarder la deuxième partie de saison, s'il y en a une Ou tu
je vais
t'arrêter là
et... Je vais voir ce que ça donne, mais c'est vrai que je trouve que... Si ça s'arrêtait là, ce serait pas mal.
A priori, il y aura un autre épisode.
T'as l'impression vraiment que c'est bouclé, au moins ce chapitre-là, on va dire.
Mais on fait quoi maintenant ? Enfin, même si on reprend pas. en deuxième partie, pas, si on reprend une nouvelle saison, enfin, sur quelle base tu veux qu'on reprenne?
Franchement, parce que c'est juste décalé le problème. Possibilité là, ça va reprendre.
Ouais, parce que c'est juste décalé le problème à 6 mois. Donc autant mieux qu'ils reprennent maintenant, qu'ils se cassent la gueule en fin de saison et en saison 5 qui. De toute façon, moi, je vais arrêter d'ici là. Donc.
Non, je sais pas, je vais garder un bon souvenir pendant 6 mois, ça m'irait bien.
Pendant 6 mois, t'as aimé House.
Voilà.
Et toi, t'as aimé House ou...
J'ai rien à dire sur House. Moi, je savais dès le début que c'était super. Voilà.
Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Moi, j'ai pas aimé Heroes.
Moi, j'ai pas vu Heroes.
Enfin, enfin...
Non. J'ai pas vu la fin, j'ai bouché mes oreilles.
Mon indulgence est peut-être plus forte parce que le début de saison était tellement à un niveau médiocre que moi je trouve que la fin de saison, je ne suis pas endormie, donc déjà c'est beaucoup mieux.
J'ai une grande question que je ne comprends absolument pas.
Il n'y a rien à comprendre. Donc.
Non, c'est par rapport à la motivation de Peter. En gros, Peter a bloqué sa copine dans un futur.
Ah, attendez, je crois que j'entends quand même. Non.
Tu veux pas te spoiler sur Heroes?
Ben, j'ai vu les 8 premiers, j'ai pas envie de... Ben, il m'en reste 2 ou 3, là. On coupera?
Un peu, là.
Pourquoi?
Alors, là, je pense que les gens sont...
j'ai pas vraiment... Si on coupe, on reprend maintenant. J'ai pas vraiment compris la motivation de Peter. En gros, il a bloqué sa copine dans un futur virtuel où elle est en prison. En quoi changer le futur va la sauver? Pourquoi il n'envoie pas Hero aller la chercher? Et ensuite la ramener au présent, enfin je sais pas.
Mais c'est en même temps, c'est un gros problème de la série, c'est au niveau temporel.
Bah ouais, parce que là elle est bloquée dans un futur alternatif.
Voilà, donc si le futur dans lequel elle est coincée disparaît, elle risque de disparaître avec, ou alors est-ce qu'elle sera intégrée dans un nouveau futur où il n'y aura plus la menace? C'est.
Mais dans tous les cas, elle est coincée dans le futur.
Oui.
Et là c'est un futur où on sait vraiment pas ce qui se passe.
Ou en même temps, si elle y reste, effectivement, elle risque de mourir du virus.
Il se peut qu'elle est déjà morte dans le futur.
Il se peut, en même temps, il peut voyager dans le temps, il peut demander à Hero d'aller la chercher.
Tout simplement, retourner dans le passé et faire qu'il ne soit pas kidnappé par l'haïtien.
En même temps, c'est un boulet, j'ai envie de dire, laisser
non, j'ai vraiment pas. C'était vraiment, il y a un sérieux problème de motivation de personnage. Mais moi, j'arrive pas à comprendre.
Regarde les Bennett. Entre le père, Noah et sa fille, là, le troll blond. Je ne peux même pas changer son nom clair. Toutes les deux minutes, c'est « Oh, ça y est, je vais aller... je veux dire au monde qui je suis. Oh, et puis non, il faut protéger ma famille. Oh, et puis si, j'ai envie d'avoir une vie normale. Oh, et puis non. » Et finalement, ils changent toutes les deux minutes d'avis.
C'est vrai.
C'est vraiment... c'est saoulant.
Et il n'y a aucune dimension dramatique au retour de Noah.
Ah, complètement, oui.
Et j'ai vraiment pas compris quel est l'intérêt de l'avoir tué. Si c'était pas pour avoir une grande scène de retrouvailles un épisode après.
Pour faire pleurer Eden Panettiere encore un petit peu. Parce qu'ils aiment bien la faire pleurer.
En tout cas, j'ai trouvé que c'était assez mal joué.
Donc ça. Oui.
J'ai aimé à peu près le cliffhanger des Petrelli. Le seul arc que j'ai vraiment aimé, c'est celui de Nathan.
Tu veux dire la poussière dans ce
moment-là ? Non, celui de Nathan. Parce qu'en saison 1, c'était quelqu'un qui n'avait pas vraiment de motivation. Il était là parce qu'il était poussé par sa mère. Il faisait de la politique parce que... Enfin, parce qu'il était poussé par des ambitions politiques qui n'étaient pas les siennes. En saison 2, maintenant qu'il trouve enfin sa voie, il devient vraiment un homme politique qui veut essayer de faire au mieux pour son pays. Et là, il se fait tirer dessus. Je trouvais que c'était assez kennedyesque, assez...
Il se fait tirer dessus à un moment où il veut révéler au monde, il veut monter au monde qu'il s'est volé. Le plafond, je veux pas dire, mais il fait 2,50 m. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi tirer sur Nathan et pas sur les deux autres d'à côté?
J'ai une théorie.
Vas-y.
Moi, je pense que c'est Noah qui lui a tiré dessus.
Oui, ah oui, bah ça, moi aussi, ça m'a paru clair. Puisqu'il dit...
Que je retourne bosser pour la compagnie. Que la compagnie ne voulait pas que le loading, c'était que personne ne soit au courant de que les Heroes existent. Ouais. Nathan, les... Par contre, je ne sais pas comment les gens ont pu comprendre que Nathan allait tout dévoiler, parce qu'a priori, il ne se passe pas beaucoup de temps entre le moment où il fait sa conférence de presse et
le moment où il prend sa décision.
C'est très 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 bancal quand même.
Ah, c'est... Oui, à tous les niveaux.
C'était très 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 bancal. Jérôme, tu peux revenir, on a fini. Jérôme.
Ouais, moi je trouve ça super bien. Je trouve que cette année, les personnages en... On parle de...
On parle de rien pour l'instant, on te laisse choisir la prochaine
Piggy
série.
Piggy Blonde.
Non, Wicked.
Mince.
Grey's Anatomy, quelqu'un regarde ?
Non.
Non.
Ah non. Eh ben, cette quatrième saison, moi, je la trouve pas mal.
Voilà, très bien. Non, Boston Legal ?
Boston Legal, ils ont pas diffusé grand-chose dernièrement.
Non, mais vas-y, parle de Grey's Anatomy, si tu veux.
Non.
Pourquoi ?
Ah bah, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que... Comment elle s'appelle ? Shonda Rhimes. Elle a pas fait de déclaration disant « Ouais, c'est vrai... cette histoire-là était nulle, je suis désolé, je m'excuse auprès des fans. Izzy et George continuent leur histoire. Ça, on n'aime pas, mais au moins j'ai l'impression que les scénaristes se tiennent à leurs idées, peu importe si ça fait plaisir aux fans ou pas. Enfin, puis après, je trouve que c'est pas mal, il y a une certaine cohérence. Meredith se comporte comme Meredith. J'aime bien qu'au bout de 3 saisons et demie, les personnages ont des réactions qui correspondent à ce qu'ils ont été, à des petites évolutions,
mais il y a une continuité.
Les personnages, il y a une cohérence, une continuité dans Grey's Anatomy maintenant. C'est une série que j'aimais pas au début, que j'aimais moyennement. Enfin, c'est une série qui est agréable à regarder, qui finalement est pas si prétentieuse que ça. C'est juste Meredith et sa voix off qui raconte, bon, elle raconte gentiment n'importe quoi sur le chirurgien, c'est pour sauver des vies. Mais à côté de ça, enfin, je trouve les personnages plutôt humains. Ils sont égoïstes, mais pas tant que ça. Enfin, j'aime bien cette saison de Grey's Anatomy. Enfin, en attendant rien, j'en attendais rien. Et puis c'est
t'as mon... rien, mais au moins t'es satisfait.
Voilà. Bon, bah j'ai bien réussi à défendre Grey's Anatomy.
Ça c'est fait. Scrubs.
Ah bah c'est la même chose, tiens. Mais j'aime bien cette saison, j'en attendais absolument rien. Ça me fait moyennement rire, mais c'est sympa quand même.
C'est un peu le phénomène... Heroes, comme pour moi. C'est-à-dire, ce qu'on a vu avant était tellement horrible que maintenant, c'est juste au niveau comparaison, ça va un peu mieux. C'est pas forcément très très drôle. Mais au moins, en parlant de Jedi, est moins saoulant. On n'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'il grandisse et finalement, le personnage fait des efforts pour être un peu moins un grand gamin. Et rien que ça, déjà, ça aide à supporter parce que c'est quand même le personnage principal. Donc, voilà, mais sinon, non, c'est vrai que c'est pas tellement drôle.
Non, j'aime bien. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce.
C'est gentillet, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a encore parmi les séries qui existaient déjà avant la rentrée ?
Betty la Grosse.
J'avais un avis hyper construit, mais vraiment, c'est hyper bien cette deuxième saison.
Elle est très bien.
Bah, on parlait du syndrome de. On parlait absolument pas du syndrome de deuxième saison. Enfin, c'est dans ma tête que j'en parlais à moi tout seul. On dit souvent que sur le site, on critique les. On aime encenser une série en saison 1 et ensuite en saison 2 la détruire, mais Ugly Betty, c'est vraiment le contre-exemple parfait.
Elle se sera en saison 3. Il y a souvent
elle se sera 3. En saison 3.
C'est souvent les saisons 3.
Ce serait plutôt le syndrome de Battlestar Galactica, c'est-à-dire la saison 1, on a trouvé ça sympa, la saison 2, on trouve ça génial, la saison 3, on trouve ça à chier, vraiment.
J'espère que Alias aussi. Ce sera pas le cas.
Hein ? Alias ?
Alias ?
Ah non, c'était nul dès le pilote.
Oh ! Mais bon, tout ça pour dire que Ugly Betty, c'est une saison 2.
Elle est bien.
Supérieure à la première.
Supérieure à la première. C'est comme ce que tu disais sur Grey's Anatomy, ça continue sur sa lancée.
Oui, ouais. ils n'ont pas essayé de faire plus drôle ou plus, je ne sais pas, over the top, parce que c'est une série assez... Non, c'est vraiment, ils sont restés dans le même niveau que la saison 1, à faire leur petit truc dans leur coin.
Ils ont trouvé leur ton, enfin, et voilà. Puis ouais, ils brodent là-dessus, et bah, ça marche plutôt bien.
Bon, à part un gros problème dans la série, Henri.
Ouais.
Faut qu'il meure très vite.
C'est le problème Betty, j'ai envie de dire. Qu'on la mette avec n'importe qui, Betty, finalement, c'est l'héroïne, mais c'est elle la moins intéressante. Et c'est vrai que donc, forcément, sa relation avec Henry, j'ai envie de dire, ça rebondit sur lui.
Bah, je trouve pas que l'acteur soit particulièrement convaincant dans le rôle. Je trouve pas bon du tout.
C'est peut-être le personnage le moins bien écrit. Hein. Enfin,
il est déjà assez mal écrit, il est pas très consistant.
On lui donne plus rien à faire, de toute façon. On lui donne plus grand-chose. Là, ils ont leur petite histoire mignonne... où ils n'arrêtent pas de dire à chaque épisode « Oh là là, profitons des derniers instants, parce que n'oublions pas que j'ai mis ma chine enceinte et qu'il va falloir que je m'en aille. »
Et que sûrement, pendant les sweeps de février, je devrais partir, mais c'est pas grave, parce que voilà. Je serai retour pour les sweeps de mai. Mais là, tu seras avec un autre gars.
Avec un autre gars qui a juste 25 ans de plus que lui.
Mais sur ce que tu dis, je suis pas d'accord avec toi. Le fait que...
Je maintiens ce que je dis, même si je ne sais pas sur quoi tu n'es pas d'accord.
Sur Christopher Gorham, même si on lui donne pas grand-chose d'intéressant à faire, c'est son rôle d'acteur d'essayer de vendre au mieux son personnage. Et il est vraiment pas bon dans l'épisode. Il était très très bien. C'était pas choquant parce qu'on le voyait très peu par épisode. Il y avait ce gars qui était un peu au loin, qui était censé avoir un arc de quelques épisodes, sur un arc de quelques épisodes, c'est très bien. En tant que personnage régulier, je vois vraiment pas l'intérêt de...
Ça fait souvent forcé, en fait.
Ça fait très, très, très forcé. Et en geek, ils le vont très, très mal. Le seul personnage geek de la série, c'est le copain de Marc.
Oui. Cliff, qu'on ne voit quasiment jamais.
Et c'est très bien, il est gay. Il faut qu'on le voit.
Non, mais pour une fois qu'il y a une relation assez mignonne, moi je les ai trouvés très touchants quand ils ont commencé leur petite histoire, Marc et Cliff.
Mais surtout que Cliff est un personnage assez intéressant. Oui. Faut pas qu'il devienne régulier, faut qu'il reste très très secondaire.
Surtout dans le milieu de la mode, c'est pas parce qu'il est gay que forcément il a l'air d'être à sa place, on va dire.
Ouais, surtout que dans cette saison 2, le truc qui était marrant, entre guillemets, dans la saison 1, c'était le fait que Betty arrive dans un milieu qui est la mode. Où elle n'a rien, rien à voir là-dedans. En début de saison 2, elle avait sa petite crise de conscience. J'ai changé, maintenant j'appartiens à ce monde. Le fait d'avoir Cliff, on revenait un tout petit peu aux bases de la série, de voir quelqu'un, ok, même si ces personnages sont excentriques, c'est bien d'avoir quelqu'un qui te dit, ouais, c'est vrai, vous êtes bizarre. Je ne suis pas super, super clair, mais j'ai l'impression que mon message peut passer.
C'est que maintenant, mais maintenant, on s'est habitué, en fait, dans la saison 1, on trouvait tous ces personnages extravagants, et finalement, c'est devenu normal...
Avoir la sœur transsexuelle de...
Oui, d'ailleurs, elle est même limite décevante, elle ne fait pas grand-chose maintenant.
Ouais, et c'est vrai que c'est plutôt assez ingénieux de la part des scénaristes d'avoir réintroduit un personnage qui a un regard neuf et qui nous fait... et qui nous rappelle que...
Ah, je suis content aussi de ne pas formuler cette idée, parce que...
Mais non, mais que Ugly Betty, ouais, c'est des personnages over the top, mais que c'est bien quand même... Ah, putain, c'est dur.
C'est dur, hein, comme argument mais avant. C'est... Blackie, tu veux tenter ta chance?
Ouais, j'allais rebondir sur autre chose, en fait.
Vas-y, rebondis.
Sur justement Alexis, j'ai pas forcément très bien compris son attitude au dernier épisode. À se mettre.
Vas-y, c'est pas grave. Hein.
À être finalement contre son frère.
Bah, ça remet un peu de piment.
Oui, ça remet un peu de piment, mais justement, ils avaient construit leur relation ensemble. Ils commençaient à bien s'entendre, et là, j'ai pas compris ce revirement.
Bah, c'est. Moi, au contraire, amnésie, je trouvais que...
Elle est plus à prendre en compte. Elle se souvient de tout, donc...
Bah, je trouve... Le personnage d'Alexis, c'est un personnage assez, assez difficile, parce que comme Henri, c'était une bonne idée en saison 1, maintenant, sur le long terme, passer l'effet de surprise, ma sœur est un transsexuel, il faut bien trouver quelque chose à faire au personnage. Et ce qui était bien avant, c'est que dans son ancienne vie, quand Alex était quelqu'un de normal, un homme, il y avait une rivalité avec son frère. Et il y avait aussi cette, ce syndrome d'infériorité qu'avait comment ça s'appelle
Daniel.
Je trouve plutôt bien qu'on remette ça au bout du jour, que c'est pas parce que, leur père est mort, ça fait 3 épisodes qu'il est mort, maintenant on est redevenus potes, et on part sur une nouvelle relation. C'est bien qu'ils gardent.
Parce qu'on a vu justement avec son amnésie, son accident, etc., que Alexis se souvenait que son père l'avait rejeté à cause de son changement de sexe. Et que Daniel, finalement, avait toujours été là pour la soutenir, et il lui a même menti pour rattraper leur relation. Enfin, vraiment, ils ont été encore plus proches que jamais, finalement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas forcément bien justifié. J'ai l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Je suis pas contre du tout, mais qu'il l'ait amené autrement, ça aurait peut-être...
Non, moi je trouve que c'est la manière idéale de le ramener, parce que ça rend leur relation de frère et sœur super complexe. Ok, Daniel a toujours été là pour elle. Ok, elle aime Daniel, elle est...
Mais elle aime plus mode.
C'est pas qu'elle aime plus mode, c'est qu'elle peut aimer son frère tout en étant quelqu'un d'arriviste et de vouloir être d'avoir de l'ambition. Je vois pas en quoi le fait qu'ils aient... Là, il faut bien différencier, pour moi, leur relation de frère et sœur et leur relation au travail. Ils bossent ensemble aussi. C'est pas parce qu'ils sont frères et sœurs qu'ils sont censés...
Oui.
C'est pas une attitude que je justifie. Non,
comme je trouvais Daniel assez convaincant, en fait, peut-être dans sa façon de l'amener à sa sœur, c'est peut-être pour ça, peut-être que je me suis sentie plus...
C'est que Daniel est quelqu'un de bien comparé à sa sœur.
Non, c'est même pas question de bien ou mal, c'est juste que je trouvais qu'il avait bien réussi.
C'est sexuel, sa sœur, c'est bon, quoi. Elle ira en enfer, c'est bon.
Bah, Daniel aussi, il a couché avec plein de filles. Hein. Peut-être même avec sa sœur.
Oui, mais ça, c'est comme les mormons, il a le droit d'avoir plusieurs femmes.
Et puis c'est un homme.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a deux poids, deux
un
mesures.
Un homme blanc hétéro, fait ce qu'il veut.
Non, mais c'est ça aussi, de prouver que l'un des arcs de Clibetti, c'est pas comment Alexis va se faire accepter, c'est que Daniel est plus qu'un gros salaud. C'est un gros salaud qui a du cœur. Que cette intrigue, c'est plus l'intrigue de Daniel que l'intrigue d'Alexis. les deux personnages principaux d'Ugly Betty, c'est Daniel et Betty.
Oui, c'est vrai.
C'est les deux arcs sur lesquels la série repose. Donc là, il faut, pour moi, je ne prends pas Alexis comme un personnage à part entière pour l'instant, parce qu'elle n'a pas vraiment de propre intrigue, sa propre intrigue à elle.
Elle en a une, quand même.
Elle en a, elle a comme, tous les, comme la plupart des personnages secondaires, ils en ont une sur 2-3 épisodes. Mais chaque semaine, il n'y a pas la storyline d'Hilda, chaque semaine, il n'y a pas la storyline d'Alexis. Ils ont des petits arcs, mais la plupart du temps, c'est plus pour rebondir sur le personnage principal. Cette semaine, il y a eu... on a vu Hilda aller en boîte avec, avec Gio. Certes, ça a fait avancer son intrigue à elle, mais ça a permis aussi de faire... servi de miroir pour la relation Henri et...
Et justement, bah alors, tu dis que Daniel, justement, c'est le principal avec Betty. Ouais. Donc, du point de vue de Daniel, qu'est-ce que ça va changer, là, de leur mettre sa rivalité avec sa sœur? Parce qu'on l'a déjà eu. On a déjà eu la même chose avec son
non,
père.
Non.
Est-ce que ça ne risque pas d'être redondant?
Non, parce que là, pour moi...
On verra.
Alexis... Non, non, je te crie pas dessus. Enfin, tu as tort, mais c'est normal, t'es une femme. Alexis, c'est le... Maintenant, va devenir le chef de Daniel. La sœur pour qui lui s'est investi, pour qui il a essayé de défendre, l'a trahi et va devenir sa... son patron.
Est-ce que ça va pas le renfoncer dans son côté pauvre gamin qui se plaint? Ou est-ce que tu penses que ça va le booster, toi, plutôt?
Je pense pas que ça va le booster, mais c'est intéressant à voir. C'est une relation plutôt intéressante. Ils allaient pas rester co-directeur, co-rédacteur en chef de...
J'aurais bien aimé voir, même pendant une courte période, ce que ça aurait pu donner. Ils auraient très bien pu se prendre le bec. En étant au même niveau.
Je sais pas. Surtout que maintenant, il faut pas oublier que Wilhelmina doit bientôt, enfin,
bien
un moment ou un jour, elle va revenir dans, dans mode. C'est un peu obligé.
Elle était pas dans le dernier épisode?
Si.
Ah. Si, mais.
Mais enfin, son intrigue avec son magazine, c'est une intrigue. Elle doit revenir. C'est obligé.
Ah, oui,
c'est.
De toute façon, je trouve que l'éloigner, surtout Marc, l'éloigner de mode.
Ça affaiblit un peu la série. C'est marrant à voir 2 minutes. Ouais. Maintenant, il faudrait que ça s'arrête assez vite. Et je serais aussi curieux de voir quelle va être la place de Wilhelmina. Moi, je vois bien Wilhelmina en tant que chef. Et Daniel et Alexis redevenir, avoir une relation peut-être un peu plus saine contre Wilhelmina. Parce qu'avoir un ennemi, c'est vrai que ça aide.
Tu te sens attendre février 2010 pour avoir la réponse à ces questions?
Non, parce que Ugly Betty, c'est une série bien gentille, mais c'est une série qui peut s'arrêter après 12 épisodes, c'est pas une série qui me manquera.
Oui, mais c'est pas Friday Night Lights.
Est-ce que... Ah, vous voulez qu'on parle de Friday Night Lights?
Oui.
D'accord.
Parlons de Friday Night Lights.
Bon, moi, je m'en vais aussi.
T'as pas vu Friday Night Lights non
plus? J'ai juste vu le premier épisode et finalement j'arrive pas à me remettre du fait que ce soit juste très bien et pas génialissime comme la saison 1. Et je suis dans une période où de déni qui est non, Friday Night Lights n'a pas de saison 2, Friday Night Lights c'est toujours super bien.
Il y a eu et on dit Denis.
Ah, c'est nul! C'est nul!
Il y a 3 personnes qui peuvent comprendre. Non, il faut qu'on coupe.
On verra.
Tu voulais pas.
Donc,
pas
toi, tu voulais partir, vas-y, pars.
Ah, mais même si je n'ai pas vu la saison 2, Friday Night Lights est une série intéressante qui ne s'occupe pas simplement du football au Texas, mais qui aussi s'occupe des sentiments de ses personnages et le fait vraiment très bien. Voilà, c'est pourquoi je vous conseille de regarder Friday Night Lights.
Friday Night Lights. Une saison 2 pas étrange, mais pas dénuée d'intérêt, je trouve. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec Riggins.
Oui.
Tu regardes pas?
Si, si, mais je te laisse développer.
Bah, son colocataire, c'est un peu... Enfin, je le vois comme un Riggins d'un futur alternatif. Oui. Enfin, voilà comment Riggins pourrait...
Devenir.
Voilà. Ce qui risque de vraiment devenir... Et c'est vrai que c'est un électrochoc par rapport à ça, ça remotive, enfin ça le motive à essayer de changer un peu sa vie, à retourner sur le droit chemin, et c'est vraiment une motivation qu'il a eue de lui-même. C'est pas Laila qui le pousse à... Il a plus Jason ou Laila pour le remettre sur le bon chemin, là c'est vraiment une motivation qui est faite par le personnage. Et pour moi c'est l'intrigue là, c'est le personnage qui bénéficie plus de ce changement en saison 2. Je le trouvais assez inconsistant en saison 1, que les scénaristes n'avaient pas trop quoi faire avec lui, surtout avec son intrigue avec sa voisine qui était assez énervante. Et là, c'est bien que
En gros, ben, maintenant, il faut qu'il se démerde tout seul. Et que finalement, bon an, mal an, il y arrive plutôt bien.
C'est pas mal, c'est effectivement, cette histoire avec, avec son nouveau coloc. Le problème, j'ai eu l'impression que pour en arriver là, il a été un peu ballotté partout. C'est pour ça que moi, elle me paraît pas frappante, peut-être son évolution. Parce que c'est un peu une engueulade avec son frère qui n'aurait pas lieu d'être. Je suis désolée, mais ils sont... L'autre, c'est son tuteur, il est censé le garder chez lui. À la rigueur, il casse avec sa copine, là, celle qui couche avec des gamins de 17 ans. Ou, enfin, je sais pas, mais son frère d'abord, il devrait pas le laisser se barrer et aller sur les canapés d'un tel et d'un tel. Maintenant, il finit où? Dans un garage. Il est un peu ballotté et finalement, j'arrivais pas forcément à... Comment expliquer ça? Je ne sais pas, mais j'avais pas l'impression d'une histoire concrète qui allait quelque part, jusqu'à ce qu'on nous montre ce type.
Bah pour moi, c'est tout l'inverse. C'est que vraiment, c'était l'élément déclencheur, le fait que son frère ne soit pas là pour lui. Que son frère dit « Ok, moi, je préfère ma copine à toi », c'est la triste réalité, mais des liens de fraternité, ben, c'est pas tout le temps...
Sauf que lui a toujours servi de père, plus ou moins, donc...
Ouais, mais il faut pas oublier que c'était son frère, c'était pas son père, c'était son tuteur légal, et c'était pas un super rôle modèle en saison 1.
Oui,
quand
non,
il ramenait les stripteaseuses à la maison, quand...
Dès 8h du matin.
C'était pas le meilleur rôle modèle qu'il pouvait avoir. Donc, c'est bien le fait qu'il soit déjà... Enfin, SDF en saison... En début de saison, il est... On le vire de chez lui, enfin, ou décide de partir, il a plus d'endroit où vivre, il a plus de maison. Ensuite, son pote Jason est sur le point de faire une très grosse connerie, bah, il est là pour lui, il est là pour aider son pote. C'est une preuve de maturité, de dire ok, bah, je sais pas quoi faire, j'appelle Layla, mais au moins je te laisse pas tout seul aller au Mexique te tuer. Quand il revient, il fait tout pour se faire réaccepter du coach Taylor. Il trouve lui-même son logement. Et là, le truc qui est bien, c'est qu'à la fin de l'épisode, c'est pas « Oh, bah, Eric lui dit pas, bah, vas-y, viens vivre chez moi, on va être une famille heureuse. » Non, il lui donne un sac de couchage, il sait très bien qu'il a plus d'endroit où vivre, et il le balance sa bagnole, il le laisse se démerder tout seul.
Mais ça, c'est maintenant, mais quand tu regardais la série, moi, c'est ça, en fait, qu'imaginer, c'est que maintenant, si je reviens dessus comme ça, comme toi, je me dis, effectivement, on peut voir l'évolution. Mais en regardant chaque épisode au fur et à mesure, je me dis, mais où est-ce qu'ils vont avec lui?
Bah, j'avais une réaction assez différente parce que les intrigues de team, c'était tout le temps celles qui me plaisaient le moins. Donc je faisais pas trop gaffe. Et je me suis surpris à bien aimer le personnage assez récemment. Et effectivement, avec le recul, quand tu regardes, tu vois bien que c'est pas un arc qui avance à tâtons. Quoique visiblement, il y a bien une intrigue qui est prévue pour le personnage. Ce que je trouve assez cool. En revanche, l'intrigue de Landry, je sais pas.
Ouais.
J'étais assez confiant jusque-là, mais j'étais très surpris par la fin de l'épisode.
Il y a un problème, c'est que les émotions sont toujours bien montrées chez les personnages.
Ouais.
Surtout que l'acteur qui joue Landry, il est vraiment bon, un simple
il
regard.
Il le vend super bien.
Rien que la dernière image du dernier épisode, je sais pas, s'il a la bleue dans les yeux, il y a quelque chose, t'as l'impression que l'histoire est finie, et pourtant tu sens qu'il y a autre chose. Et les acteurs sont tellement bons, arrivent tellement bien à faire passer tout ça, qu'on a envie de pardonner. Et qu'on a envie d'oublier que c'est une intrigue qui n'a pas l'air d'être dans cet univers. C'est ce que Fertis dit de toute façon à chacune de ses reviews. C'est que ça a l'air sorti de nulle part. Et c'est vrai qu'à la fin, c'est un peu trop miraculeux. C'est un peu trop facile pour s'en débarrasser. Alors je suis sûre qu'au niveau émotionnel, ça va rester. Ils vont bien l'exploiter au niveau des personnages. Mais au niveau réaliste, on va dire...
Ça reste
un peu étrange.
Ouais. Non, c'est vrai que...
C'est un peu trop réglé, un coup de baguette magique. Et puis, là, moi, le problème aussi là-dedans, dans cette intrigue, c'est que, finalement... je ne trouve plus son prénom. La blonde. J'ai des problèmes de mémoire.
Tyra,
j'allais dire... Ça m'énerve. Tyra, finalement, je l'apprécie moins dans cette saison. Parce que... C'est vrai qu'elle se repose toujours sur Landry depuis cette histoire. Et il a eu tellement de poids qu'il y a des moments quand elle va s'amuser. Par exemple, il vient de lui dire « Mon père vient de brûler à Bagnole l'ultime preuve. Moi, je me sens encore plus mal parce que maintenant, j'ai impliqué mon père là-dedans. » Elle fait « Ah oui, c'est triste. Bon, excuse-moi, je dois aller m'occuper des joueurs de foot et on va faire un petit striptease et s'amuser. » Et puis après, c'est « Ah merde, je dois m'occuper d'un truc personnel. Aller voir le frère de mon violeur. » Bon, Landry, tu peux y aller à ma place, s'il te plaît? Et
ouais,
ce qui fait que ça m'a fait apprécier beaucoup moins le personnage, parce que j'avais l'impression qu'elle lui filait tout dessus.
J'aime bien le fait qu'elle ait pas de remords.
qu'elle est pas trop elle est pas autant de remords que lui, que elle se sente libérée parce que ce gars lui a fait vraiment du mal à elle.
Oui, elle dit de toute façon, elle est consciente que c'était.
Elle vivait dans la crainte, elle a failli la violer, c'était de la légitime défense. Voilà. Elle, dans sa tête, elle arrive à rationaliser le truc et être limite un peu égoïste en disant ben.
Sauf quand il y a quelque chose, il y a un point sur ses épaules à elle, elle remet tout sur lui. Et
ouais, mais ça rend le personnage intéressant.
Et finalement, elle se sert beaucoup de lui.
Ouais.
Et ça rend le personnage intéressant. Mais le fait est que ça me fait moins l'apprécier que l'an dernier où elle était. La rebelle, celle qui avait une autre mentalité par rapport aux autres. Et... C'est vrai qu'à ce niveau-là, bon, bah, ça rend le personnage forcément beaucoup moins sympathique.
Je passe pas c'est moins pas sympathique, mais je trouve très différent. Hein, très très différent. C'était quelque chose d'assez traumatisant et je trouve que le personnage a un peu changé par rapport à la saison passée. Et c'est une bonne chose. Parce que tu peux difficilement vivre quelque chose d'aussi traumatisant que ça. Une tentative de viol, ensuite le meurtre de ton... du gars qui a essayé de te violer et ensuite cacher le corps sans sortir.
Ah oui, c'est évident au niveau d'évolution, de toute façon, moi, ça ne me gêne pas. Mais, c'est
mais ça reste une intrigue assez.
Après, toi,
assez bancale.
Voilà.
Jérôme ?
Il y a un pigeon dans sa chambre ?
Non, non, c'est juste pour dire. Jérôme !
Oui ?
Tu peux revenir ?
Ah bon, je voulais redire des trucs.
Ah, tu voulais dire des trucs ? Ah, bah vas-y, sors. Tu voulais dire quoi ?
Non, je voulais reparler un peu des adolescents et des adultes dans la série. Julie avec son prof, maintenant Matt avec. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Carmelita. Enfin,
Carmelita, voilà, super. Elle est hispanique tout de suite, c'est Carmelita. C'est pas Carlota ?
Carlota ? Carlita ? Je ne sais plus. C'est pas. Bon, elle est hispanique. J'entends souvent, excusez-moi. Oui, je trouve qu'on a beaucoup d'adolescents avec des adultes et ça a jamais l'air de gêner ces adultes-là. Enfin, pour les adolescents,
mais du point de vue
adolescent, moi ça ne me gêne pas parce que n'importe quel adolescent, on a tous vécu ça, d'avoir le béguin pour ta voisine ou pour ton prof, c'est normal. Mais qu'il y ait une réponse positive à chaque fois, je trouve qu'il y en a beaucoup dans la série, j'ai l'impression qu'ils trouvent rien de mieux à donner aux adolescents quand ça manque de piment.
D'avoir quelqu'un d'un peu plus âgé.
Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le dernier recours
quand dans
on
ne
sait
sens...
pas quoi leur donner. Et c'est dans ce petit cercle, on a quand même quoi ? 5 ados qu'on connaît seulement à Dylan. Et ces 5 ados-là, forcément, vivent la même chose.
Bah, le truc qui est pas mal, c'est que moi, j'ai pas vu que le prof essayait de draguer Julie.
Non,
ou essayait
pas.
De. C'était vraiment une relation un peu plus qu'un prof. Mais c'est vrai qu'il est jeune, il est assez inexpérimenté en tant que prof, peut-être qu'il il met pas encore ses limites entre élève et prof, mais il y avait quand même cette relation prof-élève. On est ok, on est, c'est des relations qui sont plutôt amicales, mais on n'est pas potes. Le Tammy a vu quelque chose de beaucoup plus gros là-dedans.
Bah, en fait, moi je pense vraiment pas que ça se serait fait entre lui et Julie.
Moi non plus.
Ça paraît évident, mais disons que en plus des autres, moi en tant que spectatrice, j'ai eu la même peur que Tammy, on va dire. Parce que je savais pour les autres, elle a justifié ça parce qu'elle est mère. Moi, c'est en tant que spectatrice que je me suis dit, oh mon Dieu, pitié, ne nous ressortez pas ça. Non, je dis, oh mon Dieu, mais non, je ne suis pas croyante. C'est une expression. Et oui, j'ai été inquiète, quoi. C'était limite, j'avais envie de remercier Tammy, d'être sûre que ça n'allait pas continuer parce que j'avais pas envie de voir Julie flirter pendant des semaines avec ce gars alors qu'on avait Matt qui flirtait avec l'autre en même temps. J'avais envie de dire bon bah maintenant ça va être smash avec une copine de sa mère
ou avec sa mère. Non mais c'était assez bienvenu de la part de Tammy parce que faut pas oublier que Julie sort d'une relation avec un gars beaucoup plus âgé qu'elle, Suède, de Sweden.
Ah oui,
Ça vient pas de nulle part la relation, le coup de flip de Tammy.
Oui.
C'était un truc qui était super bien amené. Et je trouve que pour moi, c'est le personnage le mieux écrit de la série. Tammy et Eric, c'est les deux personnages les mieux écrits de la série. Ils peuvent être. Et toutes leurs attitudes sont vraiment justifiées. Eric peut être le plus gros connard de la planète, quelquefois. Mais j'arrive pas à le détester parce que je trouve que son attitude, elle est.
Elle
vient de quelque part.
Quoi. Il a des défauts, il est pas.
Voilà, elle vient de quelque part. C'est pas surtout un personnage comme Eric qui est le coach, qui est aussi un peu le père, la figure paternelle pour la plupart de ces jeunes, parce que il y a très peu de membres dans l'équipe de foot qui ont un père présent.
le seul gars qui avait une vraie figure paternelle hors le coach, c'était Jason. Ouais. Les trois autres footballeurs principaux de l'équipe, je pense que s'ils sont aussi proches d'Eric, c'est parce que c'est la seule figure paternelle qu'ils ont. C'est ce que dit d'ailleurs la mère de Smash dans un épisode. Elle dit, je vous demande pas d'agir en tant que père, mais vous avez un rôle là-dedans à jouer. Ce que je trouve bien, c'est que ce personnage qui pourrait facilement être le gars écrit comme le super-héros de la ville, jette tout le monde et tout, ait des défauts assez importants dans sa vie de couple.
Surtout cette saison. Hein. Surtout cette saison. Il a vraiment été le héros l'an dernier, en plus qui les amène à la victoire, etc.
Mais ouais.
Et là, au niveau vie familiale, et même au niveau football, je crois qu'ils sont en train de perdre lamentablement, hein, d'ailleurs, cette saison,
ouais.
Si j'ai bien suivi. C'est vrai que là, il est en train de tout foirer cette année. Mais par contre, moi, j'ai... Comme si c'était un personnage réel, on va dire. Camille, j'ai un peu de la peine pour elle. Parce que c'est vrai que, bon, elle commet des erreurs, comme par exemple avec le prof, elle a trop exagéré. Mais c'est quand même celle qui a eu le plus de poids sur ses épaules, on va dire, cette saison. C'était vraiment... elle était au bord de la crise de nerfs depuis le début. Ça va mal avec sa fille, ça va mal avec son bébé, ça va mal avec son mari. Et je trouve qu'à chaque fin d'épisode, c'est elle qui plus ou moins trouve les mots justes pour apaiser la relation.
C'est
toujours de son côté.
C'est le centre moral de la série.
Alors oui, Eric fait un petit peu d'efforts, Julien tout petit peu aussi.
Mais c'est elle qui en fait le plus.
Toujours elle qui va en faire le plus pour rattraper en fait les erreurs des autres. Quoi. Et c'est assez fort de voir ça tout sur elle.
Et c'est d'amener de façon assez subtile.
C'est elle qui...
Elle ne surjoue absolument pas Connie Britton. Elle est magnifique dans le rôle.
Oui, on a l'impression qu'elle va trembler ou quelque chose à chaque épisode. Je me dis, mais quand est-ce qu'elle a piqué une crise
elle
de
nerfs?
Et elle reste toujours d'une sagesse incroyable.
Ouais.
C'est
vraiment le...
Un personnage pareil.
Les deux personnages principaux de la série sont vraiment les personnages les mieux écrits et les plus subtils de Fred and Alcat. J'aime aussi beaucoup l'intrigue de Jason.
Jason qu'on voit un petit peu, malheureusement, au compte-goutte.
Bah c'est bien, parce que le fait qu'il soit assistant coach... Ok, ça pouvait amener un sens à sa vie, mais je trouve que c'était plus remuer le couteau en appelait, voire perpétuellement former des jeunes à faire ce qu'ils rêveraient de pouvoir refaire un jour. Je vois pas en quoi ça pouvait l'aider. Là, j'aime bien le fait qu'ils sortent carrément de cette intrigue, qu'ils sortent carrément de ce milieu, qu'ils essaient de retrouver sa place dans une société qui est, une place assez difficile à trouver. Que là, maintenant, ils fassent l'effort de quitter le domicile familial, d'essayer d'avoir une vraie relation avec quelqu'un de...
C'est pas mal au niveau du personnage, par contre, au niveau ensemble, je trouve qu'il est encore toujours un petit peu en dehors.
Il sera tout le temps en retrait par rapport à...
Alors que l'an dernier, histoire avait plus de poids, c'était
le début.
C'était celui qui avait tout initié.
Oui.
Et il avait toujours un impact émotionnel sur les autres personnages, justement à cause de ce qui lui était arrivé. Donc là, maintenant qu'il se fait à sa vie, on va dire, c'est vrai qu'il la vit un petit peu en dehors des autres. Et ça l'exclut. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont... Il y a moins d'interactions entre les personnages.
Ça s'éparpille énormément.
C'est...
Ça s'éparpille énormément. Mais je pense que c'est parce qu'on a perdu, entre la saison 1 et la saison 2, des thématiques. La plupart maintenant des arcs reposent sur les drames personnels ou la vie personnelle des gens. Il n'y a pas vraiment de grands thèmes qui sont abordés. Comme on avait eu deux super épisodes sur le racisme à Dillon, c'était pas une storyline sur un personnage, c'était un thème qui touchait énormément de personnages. Là, c'est plus une série maintenant qui est devenue un drama familial ou un drama familial plus qu'autre chose. Je trouve qu'on a perdu en réflexion dans Friday Night Lights.
Oui, c'est beaucoup plus personnel chaque personnage plus que sur l'environnement dans lequel ils évoluent. Que ce soit le foot en général ou la vie au Texas en général, c'est vrai que ça a disparu.
C'est pour ça que j'aime beaucoup le nouveau personnage parce qu'il nous rappelle que ses mômes ont une pression énorme.
Santiago ?
Ouais. Et que lui, c'est sa porte de sortie. S'il veut avoir une place dans Dillon, c'est sa seule chance.
J'espère qu'il aura une place dans la série même, j'ai envie de dire.
J'espère qu'il sera régulier et qu'il n'y a pas foiré.
Il a une très bonne relation avec Buddy. Le personnage est vraiment pas mal. Au début, on avait peur que ce soit nouveau love interest de Lila.
Mais oui, ou non, je pensais.
et finalement, pas du tout. C'est un vrai personnage. Il a une relation très très intéressante avec Buddy.
Il humanise énormément Buddy.
Il humanise beaucoup, oui. Et puis finalement, il nous amène, comme tu disais, ce regard neuf.
Exactement.
Puisque lui débarque dans cet univers, comme Saracen en fait l'an dernier un peu.
Ouais.
Alors que finalement, Landry, on l'a percuté là-dedans, alors que finalement...
Il n'a pas vraiment sa place en équipe de foot.
Il n'avait pas trop sa place, non. Mais ce serait bien, donc, justement, qu'on le voit interagir avec les autres. Je ne l'ai pas vraiment vu parler avec Saracen ou avec Smash.
Il y a eu l'embryon d'une storyline avec lui et... Comment il s'appelle
Riggins.
Et Riggins. Riggins qui le prenait un tout petit peu sous son aile. Je serais curieux de voir...
Oui, parce que c'est un petit peu les rebelles, on va dire, ouais. Les footeurs de merde.
Oui, c'est une saison qui est beaucoup plus intéressante qu'elle n'y paraît de prime abord. Mm. Elle n'est pas que plombée par une storyline assez bancale pour Landry. Il y a des choses à voir dans Friday Night Lights. Ça reste un drama assez intéressant à regarder.
Il y a beaucoup d'éléments très bons. J'ai l'impression qu'il manque une espèce de
glue. Une cohésion.
Oui. Mm. Moi, je dis glue, toi, tu dis cohésion. Cohésion, ouais. Écoute, chacun son vocabulaire.
Ou a cohésion. Jérôme, tu peux revenir, on a fini.
Il est long ce podcast.
Il est super bon ce podcast, de toute façon il faudrait éditer un peu. Mm-hmm. On disait qu'il était super bon ce podcast, il faudrait éditer un peu.
Mais non, les gens adorent nous, bah, vous entendre.
C'est vrai qu'on t'aura pas beaucoup entendu parler.
Mais c'est parce que j'ai pas regardé tellement de séries cette année. Surtout pas des nouvelles séries. Est-ce que vous avez des choses à dire sur les nouvelles séries qui ont été lancées à la rentrée? Bionic Woman.
Non.
Gossip Girl, c'est pas si mal.
Moi j'ai pas encore regardé.
J'adhérais pas forcément au début, je trouve que maintenant c'est devenu un bon teen soap avec des jolies robes.
Mais des jolis plans de New York.
Ouais, enfin moi je regarde toujours pas. Voilà. J'ai vu Chouk.
Ah, moi aussi j'ai vu Chouk.
Moi non, mais vous pouvez en parler devant moi.
Chouk c'est à la fois nul et là c'est à la fois bien, ça me perturbe.
Je pense que c'est parce qu'on est en manque d'alias, c'est tout.
Ouais.
Moi ça me manque les bonasses qui tabassent les mecs, c'est tout. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans Chuck, c'est toute la partie espionnage sans Chuck.
Exactement. Même la partie espionnage, je trouve qu'il pourrait aller un peu plus loin et déjà arrêter les bombes avec les minuteurs. Ça devient assez pénible. Mais ouais, si on se débarrasse de tout ce qui se passe dans Darty, ce serait une super super bonne idée.
Ouais, le problème c'est que le truc dans Darty, c'est The Big Bang Theory.
Ah ouais.
Version ratée.
Exactement.
Voilà, c'est dire. Bon, si le Big Bang Theory, c'est rigolo. Ça commence à me faire un peu rire. À pile au moment donné, ils ont arrêté de produire des épisodes. Mais Big Bang Theory, c'est plutôt marrant. Mais alors, Chuck, la Darty, c'est vraiment tout ce qu'on pouvait attendre de plus horrible et de plus prévisible sur la vie des geeks.
Faut-il que nous ne sommes pas payés par Darty pour dire 50 fois leur nom.
On n'est pas dans Dirty Rock.
Et c'est ce qui est je trouve le, enfin j'espère le moins réaliste. J'espère que les gens de Darty sont pas comme ça quand même. Je pense qu'il y a des gens très bien qui bossent à Darty.
Et ça donne une super mauvaise image des geeks. Enfin, on est dans une espèce de période où le geek est censé incarner le mal ultime. Enfin non, peut-être pas, mais où en gros on voudrait nous faire croire que ce sont des êtres humains qui méritent de vivre.
Alors que c'est comme les gays et les noirs, on ne devrait pas les voir à la télé.
Et les arabes musulmans.
Et les arabes musulmans. Non, il faut qu'ils soient à la télé, il faut que nous, les arabes musulmans, soyons là pour être torturés dans 24.
Non, mais c'est un vrai, vrai souci. Chuck est pénible, son copain, il est insupportable. Et les deux autres mecs là, de Bay Darty, ils sont vraiment, mais abominables.
Il faut les noyer.
Ils sont pas drôles. Et on comprend qu'ils soient seuls et on a juste envie qu'ils meurent.
Bah, espérons qu'ils n'ont pas à se reproduire surtout.
C'est mal barré. Et puis, non, c'est quand même super drôle. C'est que, donc, alors, pour le casting des geeks, ils ont à peu près réussi, sauf Chuck, où en gros, on se rend bien compte que Chuck, c'est. Comment c'est ce film avec. Mince, avec Freddie Prinze Jr. et puis une espèce de.
She's all that. Moche.
Hein?
She's all that.
Ouais, c'est ça. Donc, la fille, elle est censée être super laide. Et à un moment donné, dans le film, elle enlève ses lunettes, elle défait ses couettes. Et c'est la bombe atomique. Bah, Chuck, c'est à peu près la même chose, quoi. Il se lave les cheveux, il met un marcel, et puis paf, il est tombé par terre. Et à côté de ça, les autres geeks sont tous laids et moches comme des poux, sauf qu'ils sortent avec des bombasses et qu'il y a Rachel Bilson qui se trimballe là. Elle est apparemment pas moche. Et quoi, en fait, ah, tiens, Chuck, il est trop beau, il est trop gentil, j'ai trop envie de coucher avec lui. Alors, j'imagine qu'elle a des super pouvoirs, elle arrive à le voir sans ses cheveux gras, mais c'est insupportable de voir des mecs beaux avec que des bombasses. Dans Chuck, les filles, il n'y a pas une fille moche.
La geekette, elle est pas...
Bah, quand... quand elle met pas son maquillage, ça va.
Ça va, mais
en gros, c'est le Henri de Glibetti qui aurait une série.
Ben voilà, c'est ça. Enfin, sauf qu'Henri, c'est vrai qu'un ton. Enfin, non.
Ah. Elle est pas super belle, America Ferrara. Mmh. Bah non, on peut dire, on peut être honnête, tu retires son maquillage, tu retires son appareil, elle reste pas super belle.
Aussi, elle est jolie, elle est mignonne, elle est normale.
Ouais, elle est normale,
c'est ouais, pas Heidi Klum. Tu regardes pas la télé pour regarder
oui, d'accord, normaux, mais ça change un peu.
Bah s'il y avait eu le gros roux de... Enfin, je sais pas si il est roux, le blond qui bosse à Darty dans le rôle de Chuck.
Oui.
Là, tout de suite, ce serait un peu plus réaliste, mais... Enfin, je sais pas si
voilà, mais personne ne regarderait. Mais par contre, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup la blonde qui joue l'agent secret. c'est débile, mais mes passages préférés dans Chuck, c'est quand ils parlent aux généraux à travers leur TD. J'ai un petit Roland de drôle de dame, tout ça, où on parle avec Charlie. Enfin, je trouve ça tellement cheap dans une série qui visiblement a un budget supérieur à celui du ministère de l'économie de la France, que je trouve ça marrant qu'il y ait ces petits moments cheap dans cette série.
Ouais.
Voilà, sur Chuck.
Ouais, c'est assez prévisible, parce que il fallait se douter du retour de Brice dès la première scène du pilote.
Ouais, parce que il fallait se douter, on pouvait être surpris aussi.
Bah, non, à partir du moment où tu prends un acteur de série, c'est pas pour jouer 3 minutes sans texte.
Mais il a joué dans quoi, lui ?
C'était le héros de Traveler.
Oui, il a fait trop calling, super, c'est pas vraiment star non plus.
Ouais, mais c'est pas figurant, tu prends pas quelqu'un qui était régulier dans une série précédente pour avoir une scène où il court et il envoie un email.
C'est un peu un mec qui est embauché parce qu'il a une belle gueule. Hein.
Bah regarde la fille de Fraser dans Desperate Housewives.
Quelle fille de Fraser dans...
Tu sais, Rose, on la voit juste 3 minutes dans un épisode de
Desperate Housewives. Non, Rose, elle a du texte, elle était guest star. Lui, c'était pas une guest star, c'était une scène de 10 minutes que tu aurais pu prendre un figurant, tu le fais courir. C'est à ça que servent les mannequins qui se trouvent une carrière d'acteur.
Oui.
Tu prends pas un acteur, tu étais enfin,
si, mais à partir du. Un acteur, il a fait Traveler et True Calling.
Non, il était régulier dans une série la saison précédente. Tu étais obligé de te douter qu'il allait revenir. Et c'était pas que pour les flashbacks. C'était comme le père de Mohinder, c'était clair et net qu'on allait le revoir en flashback.
Quoi ?
Qu'on allait le revoir en flashback plusieurs fois dans la saison 1, parce qu'ils avaient pris un acteur connu pour jouer son père. Hein? Je pense qu'ils ont un peu vendu leur... Bon, après peut-être que... Tout le monde n'a pas Anus Yeerrick gravé dans le crâne pour se rappeler que Matthew Bomer était dans Traveler l'année dernière. Mais non, quand je l'ai vu, je doutais qu'il allait revenir.
Il y a un truc que j'aime bien aussi dans le Chuck, c'est qu'il y a le mari de Fran dans cette deuxième série et... Je ne le mets pas dans Living with Fran et bah là je l'aime bien parce que ça me fait penser à Fran Fine et je la trouve marrante, alors je rigole quand je le vois.
Bah, c'est l'intrigue dans la vie personnelle de Chuck qui me déplaît le moins.
Ouais, c'est
la vie familiale avec sa sœur. Ils ont une relation de frère et sœur assez normale.
Si, on aime. Moi j'aime bien.
Son mec là, Captain Amazing ou...
Captain Awesome. Ouais, il est là, tu le vois pas tous les épisodes, tu le vois 2 minutes, il est marrant, ensuite il se barre.
Puis ouais, sa relation avec sa sœur sonne juste, c'est-à-dire la sœur qui a tout réussi et qui regarde avec un petit regard un peu désespéré son petit frère.
Ouais.
Enfin, ça sonne juste par les scènes à Darty. Quoi.
Les scènes à Darty, non, il faut les couper. Il faut juste rajouter plus de scènes avec la blonde qui tabasse des méchants.
En petite tenue.
Donc, bah, c'est le but, hein.
Mais les scènes d'action sont quand même pas mal faites dans Chuck.
Ouais.
J'aime bien.
Ouais.
Voilà.
C'est une série à regarder quand il y a la grève des scénaristes. Après...
Oui, je pense que d'ailleurs...
J'ai un peu l'impression que toutes les nouvelles séries sont les séries à regarder quand il n'y a rien qui sort du lot. Pushing Daisies, je sais pas...
Pushing Daisies, j'adore.
Ah, moi aussi, chaque semaine, je me jette dessus.
Et je les re-regarde.
Ah bon,
c'est la seule série où je me surprends à re-regarder les épisodes avec 30 Rock. Le problème de Chuck, et c'est ce qui m'énerve le plus dans Chuck, c'est que Chuck c'est pas un téléfilm, Chuck c'est pas un film, Chuck c'est une série qui est censée durer sur, espérons, 3, 4, 5 ou 6 saisons. S'ils donnent aucune consistance dès le début à leur personnage, ça a pas l'air d'aller en s'améliorant. À un moment ou un autre, quand dans Alias ils vont réaliser que ils devront arrêter de faire des scènes, Frenemy vient goûter ma bouillabaisse et.
Parce qu'à un moment donné, Chuck va au bout de sa 47e mission, il va bien commencer à arrêter de faire n'importe quoi et pas et à pas sortir de la voiture et à faire ah bah tiens le méchant je t'aide.
Bah.
Donc oui, donc une fois que Chuck sera un vrai agent secret, il va passer son temps à vendre. Enfin ouais, ça. Mais c'est le concept de la série aussi, enfin.
Qui est, bah, qui est bancal dès le début. C'est une série, ok, qui peut être bien si elle est annulée vite. Et on se dit, oh, ça aurait pu être bien si ça avait continué. Mais là, non, s'il continue, faut vraiment, vraiment, vraiment trouver une super bonne idée pour relancer l'intérêt de la série. Ce qu'Alias avait essayé de faire bon an mal an.
Mais moi, j'aimerais bien une assez... bombe au Dart. Enfin, à Baymore.
Au Dart, Japon.
Qui tue tout le monde. Et Chuck fait, oh non, c'est trop horrible, mes amis sont morts. Puis je vais me consacrer à ma vie d'agent secret. Je vais me laver les cheveux. Et avec la blonde, on va devenir. Bah voilà.
Non, mais surtout, il y a un gros problème avec la série, c'est que Chuck, comme Jedi, doit se responsabiliser et doit être un peu plus adulte. C'est pas en ayant un job à Darty, ça va changer sa vie.
C'est pas tout le temps de. Les gens qui travaillent.
Les gens qui travaillent à Darty sont des gens très très bien, qui doivent avoir un loyer à payer, mais ils sont pas agents secrets, ils ont pas tous les secrets de la CIA dans la tête. Et c'est quelqu'un qui est parti dans une université assez prestigieuse. Quelqu'un qui était destiné à avoir un job mieux que de bosser à Darty. Il pourrait bosser à la PNP, tout simplement. Non, mais il serait peut-être temps que maintenant Chuck démissionne, ou en début de saison 2, qu'il aille bosser dans un vrai bureau avec un job qui pourrait, où il pourrait utiliser un peu plus ses capacités. Une couverture comme le Crédit Dauphine.
Ah, c'est marrant, Chuck, c'est un peu... Alias, c'était Felicity avec Felicity agent secret. Et là, Chuck, c'est Felicity, mais avec le gros de Hero, il y a tout ce truc.